Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, en direct à la radio tôt le matin de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou mieux, l'abonnement au podcast du Réveil culturel disponible entre autres sur l'application de Radio France ou en quelques clics à partir de la page franceculture.com. Tous les mardis, on parle de l'actu des expos dans le Réveil culturel et aujourd'hui on va parler de l'exposition Mandrian figuratif. Mandrian figuratif, deux mots qu'on a priori du mal à associer. Mandrian est connu pour ses petits carreaux bleus, rouges, jaunes sur fond blanc, séparés par des grandes lignes épurées noires. Mais avant de devenir le grand peintre de l'art abstrait, l'artiste néerlandais a eu une autre vie et une œuvre méconnue. Ainsi, avant d'être inspiré du cubisme de Braque et de Picasso qui vont le mener vers l'abstraction, Mandrian a peint des paysages, des moulins, des arbres, des fleurs, quelques portraits et quelques autoportraits d'ailleurs. Impressionnant, ces toiles rares seront pour la première fois montrées à Paris. Mandrian figuratif, une histoire inconnue, c'est au musée Marmottan dans le 16e arrondissement à Paris jusqu'au 26 janvier. La commissaire de l'exposition, Marianne Mathieu, est mon invitée ce matin.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Je suis Piet Mondrian. Vous connaissez mon œuvre abstraite ? Je vais vous étonner. J'ai toujours follement aimé la peinture figurative. Tout au long de ma vie, j'ai peint des paysages, des personnages, des fleurs. Venez découvrir cet aspect méconnu de mon œuvre.
Alors, c'est pas la voix de Piet Mondrian, on est bien d'accord, Marianne Mathieu, bonjour.
Bonjour. Non, ça n'est pas la voix de Piet Mondrian, mais finalement, ça retrace bien son chemin et son parcours.
Et ça résume bien cette exposition assez exceptionnelle au musée Marmottan Monet. On le sait, Mondrian est connu plutôt par ses peintures abstraites aux lignes épurées, ses carrés rouges, jaunes et bleus, artiste pop avant l'heure, célébré partout, y compris dans le monde de la mode, quand on se souvient bien sûr de la fameuse collection Yves Saint-Laurent. Mais l'exposition actuellement donc est jusqu'en janvier au musée Monet-Marmottan, met l'accent sur son œuvre figurative avec 67 tableaux exposés pour la première fois en France. Et c'est un événement parce qu'on voit un autre Mandrian avec ses tableaux assez incroyables, des paysages, des portraits, et avec cet intitulé, bien sûr, Mandrian figuratif. Alors, pour tout vous dire, Marianne Mathieu, on est allé voir cette exposition avec curiosité pour essayer de voir dans cette œuvre de jeunesse les prémices de l'art abstrait et épuré qui vont consacrer le peintre. Mais cela dépasse même l'œuvre de jeunesse. On est d'abord vraiment très surpris de voir ses peintures.
Alors ça n'est pas une œuvre de jeunesse, c'est une œuvre de maturité. Et les œuvres qui sont présentées, elles sont surprenantes parce que figuratives, mais elles figurent au rang des chefs-d'œuvre. Ce sont des peintures qui sont éclatantes de couleurs, de diversité, de dynamisme. Mondrian est un grand maître figuratif, et donc il n'a pas fait de la figuration à 19 ans pour ensuite devenir un peintre abstrait.
C'est ce qu'on croyait. Hein, on était là en disant c'est l'œuvre de jeunesse, c'est avant que Mondrian devienne Mondrian tel qu'on le connaît.
Mondrian est figuratif jusqu'à 50 ans. Voilà. Et c'est ce qu'on voit dans cette exposition. On voit d'une part, j'allais dire, le meilleur de ce Mondrian figuratif. Alors c'est n'est pas n'importe quel meilleur, parce que toutes les toiles qui sont présentées ont été choisies par Mondrian lui-même pour qu'elles soient acquises par un de ses collectionneurs et qu'il les lègue à un musée. Donc c'est le meilleur de ce Mondrian figuratif. Et on voit bien dans l'exposition qu'il y a un parcours complètement chronologique, que Mondrian n'est pas quelqu'un qui va du noir à la couleur, de la figuration à l'abstraction, mais que les deux s'entremêlent. Et que la même année, Mondrian peut peindre un moulin d'un rouge éclatant sur un bleu nuit dérangeant et une peinture cubiste, c'est-à-dire avec des camaïeux de gris où la couleur est complètement mise entre parenthèses. C'est un chercheur et c'est quelqu'un finalement qui fait preuve d'une ouverture d'esprit qui est tout sauf iconoclaste.
Mais alors, est-ce que ces tableaux qu'on voit pour la première fois en France, ce sont des tableaux que Mondrian a réalisés durant sa carrière ou ça reste quand même une période de sa vie?
Alors, l'exposition présente principalement des œuvres qui vont de 1891, donc il a 19 ans, jusqu'à 1920, donc il a 50 ans. Et Mondrian est un peintre figuratif, on pourrait le dire, jusqu'à 50 ans. Mondrian n'est pas quelqu'un qui va renier sa peinture de jeunesse. Au contraire, c'est quelque chose qui se vit dans la continuité. Et, pour exemple, l'exposition se termine sur une peinture néoplasticiste, ces fameuses peintures que vous décriviez et que l'on connaît. Et juste à côté, on a une œuvre qui lui est complètement contemporaine. C'est une rose, superbe rose sur fond jaune. Eh bien, Mondrian, tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort, le matin quand il se lève, de la même manière qu'un musicien va faire ses gammes, eh bien lui, il peint une rose.
Est-ce qu'il a été victime de son succès, Mondrian, de ce qui a fait son succès plutôt, Marianne Mathieu, parce que ses œuvres, pour la plupart, sont présentées pour la première fois. Elles ne sont pas connues, elles ne signent pas le fameux style Mondrian.
Alors ça, c'est une lecture a posteriori de l'œuvre de Mondrian. Mondrian meurt en 1944 aux États-Unis. Lorsqu'il s'installe aux États-Unis, il arrive sans œuvre, les mains nues, et la majorité des œuvres qu'il produira là-bas sont des œuvres abstraites. Ce sont des œuvres abstraites, mais d'ailleurs pas seulement. Hein. Il fera aussi une peinture alimentaire, qui est une peinture de fleurs et qui sont des œuvres extrêmement belles et très importantes. Et c'est le moment où on écrit l'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art que l'on souhaite écrire, à laquelle on souhaite donner un sens, eh bien, elle va dans le sens de l'abstraction. Et donc, il y a des impasses artistiques qu'on condamne à cette époque-là. Par exemple, l'une des grandes impasses artistiques, c'est l'impressionnisme et c'est Monet. Donc, Monet n'est pas représenté dans l'exposition inaugurale du MoMA en 1929. Et le Mondrian figuratif, eh bien, est mis au purgatoire de l'histoire de l'art par les historiens de l'art qui considèrent que ça n'est pas Mondrian. C'est une lecture qui est faite par les historiens de l'art. C'est une lecture posthume, car Mondrian lui-même n'a jamais opposé l'un à l'autre.
Donc vous proposez une contre-histoire de la vie et de l'œuvre de Mondrian.
Une contre-histoire ou tout simplement rétablir sa chronologie et sa réalité. Puisque Mondrian n'oppose pas la figuration et l'abstraction, elle révèle toute la même chose. Alors qu'est-ce qu'il veut peindre, Mondrian ? Mondrian, il est comme Monet. Il peint toute sa vie la même chose. Monet veut peindre la lumière. Alors, au début, il a une peinture de jeunesse avec des visions panoramiques, et puis à la fin, eh bien, il peint la lumière à travers la représentation d'une fleur, le nymphéa. Mondrian, il le dit, dès le début de l'exposition, on l'écrit, il essaie de peindre des paysages intérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paysage intérieur? Qu'est-ce que c'est que l'essentiel? C'est quoi l'essence des choses? Eh bien, c'est la question qu'il se pose. Il ne sait pas. Il n'a pas la réponse et donc il cherche. Et on voit bien dans cette recherche que Mondrian, tous les tableaux qui sont présentés, on a pris par exemple le moulin qui est la ligne rouge de l'exposition avec des œuvres qui sont extraordinaires de présence, de rythme, de couleur.
On est tout à fait d'accord. On va s'arrêter justement sur ces moulins, Marianne Mathieu. Est-ce que vous, qui êtes spécialiste de l'art, historienne de l'art, en plus d'être commissaire de cette exposition et vous travaillez en tant que conseillère scientifique au musée Marmottan-Monet, est-ce que vous, en voyant ces œuvres, ces tableaux, c'est-à-dire les fameux moulins de Mondrian, vous reconnaissez le Mondrian tel qu'on le connaît, tel qu'il a été connu de par le monde entier?
Quand je vois ces tableaux déjà, je suis émue. C'est une émotion esthétique, artistique, quelque chose que je n'ai jamais rencontré. La réunion des œuvres qui sont là sont...
Elles sont très belles, ces œuvres, surtout cette série sur les moulins, surtout ce clair-obscur, mais on est très loin du Mondrian qu'on connaît.
Eh bien moi, j'ai, à travers cette exposition, et je crois que c'est ce qu'on essaie de montrer, compris que Mondrian peint la même chose toute sa vie. Et aujourd'hui, quand je vois un moulin de Mondrian, je vois Mondrian, rien que Mondrian, complètement Mondrian. Que fait Mondrian? Il veut peindre l'essence des choses. Alors il commence par une peinture grise, parce qu'on peint gris à cette époque-là aux Pays-Bas. Puis il s'aperçoit qu'à essayer de restituer l'atmosphère de la nature, d'avoir finalement une peinture qui est empreinte d'un certain réalisme, il ne peut pas en restituer l'essence. Donc il va tenter d'explorer les ressources qui sont les siennes, et d'explorer la couleur. Et à partir de là, il a une utilisation très expressive de la couleur. Et là, on passe de couleurs qui sont grises, à des jaunes éclatants, des rouges éclatants.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire oublier tout ce qu'on a appris avec l'école de La Haye ?
Oui, c'est oublier tout ce qu'on a appris et c'est chercher. C'est chercher avec tous les moyens du peintre. Et donc, Mondrian va peindre ces magnifiques paysages panoramiques avec ses moulins, d'ailleurs des compositions très orthogonales, hein, et qui laissent finalement deviner ce qu'il fera plus tard. Puis Mondrian continue à chercher. Il s'aperçoit que, quelque part, à trop vouloir en montrer, eh bien, on dilue son sujet. Comment peindre l'essence quand on essaie de représenter la nature dans son ensemble? Et donc, de la même manière que Monet va abandonner ses vues panoramiques pour se concentrer sur ses fleurs de nymphéa, il va délaisser les visions panoramiques traditionnelles pour se concentrer sur un motif. Et donc, ce sera le moulin, l'arbre, et la sélection de moulins qui est au musée Marmottan est extraordinaire.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Figuratif, une histoire inconnue au musée Marmottan Monet jusqu'au 26 janvier. Et je suis avec la commissaire de l'exposition, Marianne Mathieu. Si vous n'habitez pas Paris, voilà une bonne occasion de passer par la capitale. C'est un très beau musée, par ailleurs, dans le 16e arrondissement. Mais cette exposition, elle est assez révolutionnaire parce que certaines de ses œuvres n'ont jamais été montrées à Paris, je crois.
Une majorité des œuvres n'a jamais été montrée à Paris. Beaucoup d'œuvres viennent à titre absolument exceptionnel. Car effectivement, c'est une exposition unique et la réunion d'œuvres clés est quelque chose qui ne se reverra plus. Et c'est pour nous un enchantement d'avoir ces moulins dont on parlait, mais qui sont différents, aucun ne se ressemble. Tous ensemble, c'est l'imaginer qu'un musée se départisse de l'ensemble de ses chefs-d'œuvre. Et donc c'est effectivement une occasion absolument unique.
Et la réussite de cette exposition, c'est dans son installation, parce qu'il y a l'évolution de Mondrian à travers la déambulation que vous avez imaginée pour cette exposition, Marianne Mathieu.
Oui, l'idée, c'est de parcourir avec Mondrian son chemin et de voir que sa peinture est extrêmement cohérente. Alors, on discutait, on s'est arrêté sur ce recadrage auprès du motif. Et qu'est-ce que va faire Mondrian ? Il va chercher. Alors, il cherche la force expressive de la couleur et on a un moulin dans la clarté du soleil qui est une œuvre luministe avec des touches de jaune, de rouge, expressive, absolument extraordinaire. Et là, Mondrian touche du doigt quelque chose. C'est la notion du rayonnement. Il se dit « Ah, ça doit vibrer !» Alors quand on voit cette œuvre, c'est évident, hein, c'est un feu d'artifice de rayons. Mais ce principe du rayonnement, cette sensation, va devenir le curseur qui va permettre à Mondrian de concevoir qu'une œuvre est réussie ou ratée, qu'elle soit figurative ou qu'elle soit abstraite. Il y a une deuxième chose qui se passe, c'est qu'il se recentre sur le sujet, sur le motif, et là il va essayer d'explorer son sujet, son motif au maximum. J'allais dire de l'épurer, il déshabille la peinture. Donc on est en 1909, en 1911 il continue à étudier son sujet, on a
et là,
Zélande, des choses extraordinaires.
Mais son goût pour l'abstraction, on le voit déjà là, à cette période, non ?
C'est pas un goût pour l'abstraction, c'est un goût pour l'essence. Il essaie de peindre cette essence alors dans le rayonnement. Alors, il simplifie, il déshabille la peinture. Et de plus en plus, eh bien, les vues panoramiques n'existent plus, on resserre le sujet, et de plus en plus, eh bien, les formes se simplifient. Donc il est dans une mission de déshabillage de la peinture. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'abstraction ? Mondrian, il est aux Pays-Bas. Il a très peu d'accès à la peinture des écoles européennes. Il la connaît de manière livresque. Et notamment, en 1911, il lit des comptes rendus d'expositions cubistes. Il dit « c'est formidable, les cubistes ont exactement le même projet que moi, c'est-à-dire représenter un objet dans toute sa réalité ». Et donc, eux passent par la parcellisation, l'éclatement des formes pour les représenter sur une surface plane. Ils donnent une première interprétation livresque. On a deux tableaux absolument magnifiques, pétants de couleurs, où on éclate, on a l'impression d'avoir des éclats de verre dans les tableaux. C'est extraordinaire, c'est décoratif. Et il se dit, je vais quand même aller à Paris voir ce qui se passe. Et il arrive à Paris, il découvre la peinture cubiste. Et il faut imaginer un homme qui arrive et qui prend une discussion en route. Donc il fait comme les cubistes, c'est-à-dire qu'il met la couleur entre parenthèses et il passe en 6 mois de couleurs rouge, bleu, jaune à des camailleux. Et puis il va décomposer la forme. Donc on est en 1911, 1912, 1913, il continue et comme les cubistes, eh bien, il arrive au moment où de plus en plus on simplifie la peinture et on ne reconnaît plus le modèle initial. On s'inspire toujours de quelque chose. Mondrian s'inspirera à Paris, notamment de tous les dessins qu'il a pu rapporter avec lui de Hollande. Il travaille les eucalyptus, il travaille les arbres et on a une succession d'arbres. Mais que font les cubistes ? C'est qu'à un moment, ils disent « nous devenons abstraits ». Et nous ne sommes pas des peintres abstraits, donc nous devrons réintégrer la réalité. Et c'est ce moment-là où on voit dans les toiles de Braque et de Picasso le détail d'un bout de journal. Or, Mondrian n'est pas un peintre de l'anecdotique, n'est pas un peintre du pittoresque. Et là, il se dit, l'idée est bonne, les moyens ne sont pas les bons, il se trompe. Alors, il y a une grande rupture dans la vie de Mondrian, c'est la Première Guerre mondiale. Au moment de la Première Guerre mondiale, Mondrian n'est plus à Paris, il est, collé aux Pays-Bas pendant 5 ans. Il va continuer seul cette recherche. Et il va rencontrer un collectionneur qui sera son plus grand collectionneur, qui s'appelle Salomon Slaper, qui va lui sauver la vie, qui va changer sa vie, et pour lequel d'ailleurs il va faire d'extraordinaires peintures figuratives. Et bien postérieure au tableau qu'on vient de décrire, en 1916, en 1917, il nous donne des visions nocturnes de moulins qui sont extraordinaires.
Il est habité par quoi, Mondrian, à cette période de sa vie ? Parce qu'il y a quelque chose du mysticisme qu'on peut sentir à travers ces tableaux, Marianne Mathieu.
Mais il est mystique toute sa vie. Il est mystique du premier jour de sa vie au dernier jour de sa vie. C'est d'ailleurs le fils d'un pasteur. Il a évolué dans un milieu religieux extrêmement présent, extrêmement fort. Il est appelé par la théosophie, qui fait une synthèse de la religion, de la spiritualité. Et donc le propos de la peinture, c'est bien de représenter quelque chose de spirituel, ce souffle de vie qui habite le paysage, qui nous habite, et donc comment représenter ce qui n'a pas de forme, mais ce qui est pourtant vivant. Et c'est ça son projet. Et toutes les peintures de Mondrian ont le même objet. Il a le même projet artistique. C'est pour ça que Mondrian peut, sans se trahir, peindre des peintures figuratives et des peintures abstraites. Il l'écrit lui-même, il le dit. Le projet est le même. c'est la forme qui change. Et donc, il est pur, il précise son sujet, et finalement, sa peinture abstraite n'est qu'une précision de sa peinture figurative.
Sauf qu'il y a autre chose, parce que tout ça se tient, Marianne Mathieu, mais il va être aussi un portraitiste. Et là, on est dans autre chose, y compris à travers ces autoportraits qu'on voit dans cette exposition à différentes périodes de sa vie.
Alors oui, alors il est un portraitiste, il est son propre portraitiste, et il est un peintre figuratif. C'est-à-dire que chaque section de l'exposition est accompagnée d'autoportraits de Mondrian, qu'il a sélectionné lui-même, qu'il a décidé de conserver, qu'il a réservé avec son collectionneur pour un musée. Et donc, lorsqu'il fait cette peinture luministe, éclatante de lumière, on a l'impression d'un beatnik. Il est d'ailleurs très très beau, il est ténébreux, le regard extrêmement expressif, il est barbu. Et on le décrit d'ailleurs à cette époque sur les plages en disant ce fou de Mondrian qui était en train de faire la position du lotus. Et lorsqu'il arrive à Paris, eh bien Mondrian, c'est là où il va mettre entre parenthèses la couleur, il va tenir sa peinture. Eh bien il se tient lui-même et il change d'apparence. C'est le Mondrian qu'on connaît. Juste une dernière chose, lorsqu'il fait son autoportrait de peintre, l'autoportrait qui doit le représenter en tant que maître, c'est l'année où il a fait sa première peinture abstraite, il représente dans l'arrière-fond du tableau cette peinture abstraite, et nous présentons les deux en vis-à-vis dans l'exposition, mais il est hors de question pour Mondrian de se représenter à travers une ligne et une couleur. Il se représente dans la grande tradition naturaliste, et on a l'impression d'un autoportrait à la Poussin. Il s'inscrit parmi les maîtres de chair et de sang.
Dans cette exposition, c'est justement ce que vous venez de dire d'une manière remarquable, Marianne Mathieu, c'est à chaque fois rappeler que Mondrian n'est pas seulement le Mondrian qu'on connaît, n'est pas seulement le grand artiste des peintures abstraites aux lignes épurées, ses carrés rouges, jaunes et bleus.
Il n'est pas que cet artiste, et d'ailleurs de ces peintures rouges, jaunes et bleues que vous décrivez, il n'y en a qu'une. C'est la dernière de l'exposition.
Mais est-ce à dire que c'est l'aboutissement de tout ce qu'il avait fait auparavant?
Mais bien évidemment. Quand je dis il déshabille la peinture, il déshabille le motif. Finalement, quand vous prenez votre moulin, que reste-t-il à la fin quand vous avez tiré la substantifique moelle de votre motif, du moulin ou de l'arbre? Il vous reste une ligne. Droite, horizontale, en biais. Une fois que vous avez cherché la couleur, que vous reste-t-il dans votre matériel de peintre? Il vous reste les couleurs primaires, le noir et le blanc, parce qu'avec ces cinq couleurs, on peut retranscrire l'intégralité du prisme chromatique. Donc là, il a déshabillé la peinture. Comment faire pour lui donner vie? Eh bien, on lui donne vie. Je vais vous prendre une image. Nous sommes là, assis dans ce studio, et on a l'air de gens très bien, extrêmement équilibrés. Pourtant, on s'est levé ce matin, on était fatigués, on a chacun nos problèmes, on a aussi nos forces, et on essaie de créer cet équilibre. Et donc, cet équilibre ne se voit pas, mais pourtant, nous sommes en mouvement intérieur. Eh bien, c'est ça que Mondrian va peindre. Parce que ces lignes qu'il peint, ce qu'on pense être des carrés ne sont pas des carrés. Rien n'est droit, il n'y a pas d'angle droit. La couleur qu'il applique, il l'applique de manière vibrante. Et c'est ce mouvement imperceptible que l'on n'arrive pas à identifier qui pourtant donne à cette peinture tout son sens et toute cette valeur. C'est pour ça qu'apprécier un Mondrian abstrait, c'est voir un Mondrian de visu. On ne peut pas juger un Mondrian si on ne voit pas la peinture. On ne peut pas juger ces Mondrians parce que c'est cette vibration, c'est ce travail de peintre qui fait sa signification. Et c'est pour ça que Mondrian n'est pas uniquement un intellectuel, mais qu'il est avant tout un peintre-peintre.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Mandrian, figuratif, une histoire inconnue, c'est au musée Marmottan-Monet à Paris et c'est jusqu'au 26 janvier. Merci à la commissaire de l'exposition, Marianne Mathieu, d'être venue ce matin nous éclairer. J'espère que ça va vous donner envie de passer par Paris, si vous n'habitez pas Paris, pour cette exposition qui vaut vraiment le détour. Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Nicolas Delmas. Bonne matinée sur France Culture, on se retrouve demain.